Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma, nous sommes le vendredi 21 novembre, il est exactement 11h11. Ici j'ai un ingé son en régie avec moi, Guillaume, salut Guillaume.
Salut.
Et en studio il y a...
Aurore.
Oui. Hey.
Yelena.
Oui.
Arthur.
Pierre.
Alexis.
Léo.
Et Léo, salut à tous. Donc en fait, en ce vendredi matin de fin de mois de novembre, j'ai envie de dire moitié fin, trois quarts de fin, on va écouter de la musique parce que là je crois que je vais arrêter de parler, c'est n'importe
voilà,
quoi.
Voilà, trop fatigué.
On va commencer tout de suite avec Creep de Radiohead. Yelena, qui est Radiohead?
Il y a un groupe.
Ouais.
Il est anglais, je crois.
D'accord, comment t'as connu?
Je l'ai entendu, mais j'ai entendu une reprise.
Mm-hmm.
Et en fait, j'ai préféré l'original.
Ah, pas mal. Ok, tout à l'heure on écoutera une autre reprise, mais là pour l'instant c'est l'original Radiohead Creep sur Radio Emma. When you were here before, look you in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. Belong. Creep de Radiohead, qui est effectivement un groupe anglais. Alors, on a fait quelques petites recherches avec l'ingé son de choc Guillaume, qui est avec moi en régie. Et en fait, Creep, en fait, ça veut dire un peu bizarre. Pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, en effet, c'est le premier single de Radiohead. Et en fait, c'est l'histoire d'un gars. Je ne sais pas si vous savez l'histoire qu'il y a derrière cette chanson. Ah, bah, si tu la connais, raconte-nous.
Mais en fait, il y en a deux. En fait, soit c'est. Enfin, c'est un mec qui est amoureux d'une fille, mais qui est dans une classe sociale plus élevée que lui. Et il est fou amoureux d'elle et il pense qu'il est trop, enfin il est pas bien pour elle. Soit la deuxième signification, c'est quelqu'un qui se déteste et qui, enfin il se déteste lui-même et enfin c'est une chanson où il dit qu'il se déteste quoi.
Peut-être un peu un mélange des deux. Apparemment, il aurait écrit ça quand il était étudiant, le gars. Mais apparemment, ça viendrait du fait qu'il était amoureux de cette fille. Et qui effectivement était plus huppé. Donc il l'a suivi, il dit voilà, je suis un mec bizarre, mais je suis pas assez bien pour toi, etc. Peut-être que ça lui renvoie au fait de pas trop s'aimer non plus derrière.
C'est sûr que bon, si tu dis je suis pas assez bien pour toi, c'est que tu crois pas trop en tes chances.
Hein. Bah, ça... Là, je vois effectivement qu'il exprime un dégoût de soi.
Oui, parce que genre, pour un couplet, genre, il dit. Je m'en fiche si ça blesse les autres. Je veux avoir le contrôle, je veux avoir un corps parfait, je veux avoir une âme parfaite et tout. Donc, là, c'est pas trop.
C'est pas du dégoût de soi, ça.
Bah, si.
Pourquoi?
Bah, parce que ça veut dire qu'il s'aime pas, il veut être parfait.
Ah.
Dans le refrain, il dit je suis un monstre, je suis bizarre, qu'est-ce que je fais là? Je n'appartiens pas à ce monde.
Mm-hmm.
Donc, oui, on va dire qu'il s'aime pas trop, le mec.
Voilà.
Hein. on va le dire comme ça. Hein.
Donc, en fait. Il est amoureux d'une nana qui est apparemment d'une classe sociale qui lui le renvoie à un truc genre il est pas assez bien pour elle et du coup ça le renvoie lui à un dégoût de lui-même peut-être.
Oui, je pense.
Analyse poussée.
Et du coup il devient perfectionniste avec lui-même et il veut un corps parfait et quoi d'autre parfait?
Une âme parfaite.
C'est quoi une âme parfaite?
Ça n'existe pas.
Non mais c'est vrai. C'est est-ce que vous croyez que ça pourrait aller avec l'idée d'avoir un cœur pur?
Oui. Ouais, un peu. Ouais.
On a tous un cœur pur.
Ah bon?
Non, il faut se prendre un peu tout souillé quand même par le péché. Dieu nous pardonne.
C'est vrai, qu'est-ce que c'est un cœur pur?
Bonne question.
Un mythe.
Ok, mais si on devait le définir, ce mythe?
Bah, c'est avoir rien à se reprocher, tout faire parfaitement.
Alors, si tu vois comme ça, perso. Hein.
Ouais, prends le micro juste.
Bah, je sais pas, un cœur pur, pour moi, c'est pas forcément qu'on doit tout être parfait, parce qu'on est humain, dans tous les cas.
Ouais.
Non, je sais plus, une sorte de bienfaisance, un truc dans le genre, quoi.
Moi, c'est le...
Une bienveillance.
Voilà, un ouais, truc dans ça. Le genre. Mais ça passe pas forcément par des actes. Ça passe pas, bah, par exemple, de faire tout ce qu'on fait parfaitement, quoi. C'est indépendant de ça, je pense.
C'est d'avoir un fond. Je pense qu'on pense un peu la même chose. D'avoir un bon fond, d'être bon, quoi. Tu le vois comme ça, toi?
Ouais, plus comme ça, ouais.
Moi, je le vois plutôt en faisant ce qu'on aime et en le faisant bien et en étant sympa avec les autres, comme ils l'ont dit, c'est-à-dire en étant bienveillant.
En faisant ce qu'on aime.
Et en le faisant, c'est-à-dire en gros, tant que tu empiètes pas sur les autres et que tu les respectes tout ça, voilà, et que tu les aimes et que t'es bienveillant avec eux, tu peux faire ce que tu veux, t'auras un cœur pur.
Ah ouais, ok.
Pour moi, c'est ça. Après.
Pierre, toi, t'aurais une définition de ce que c'est qu'un cœur pur? Non, mais ça t'évoque quoi?
Bah, je sais pas, ouais, la bienveillance aussi, quoi. Enfin, être sympa avec les autres et pas faire de mal. Enfin, être soi, quoi. Ne pas empiéter sur les autres, comme on l'a déjà dit.
Et c'est quoi une âme parfaite? Enfin, tu penses qu'il voulait dire quoi, le gars, quand il parlait d'avoir une âme parfaite?
Enfin, pour moi, genre, pur. Enfin, quelque chose de pur, c'est quelque chose de parfait. C'est quelque chose où il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de choses mauvaises. Enfin, donc, pur, pour moi, c'est presque... Enfin, pas pareil, mais c'est presque parfait. Donc, pour moi, oui, c'est ce qu'il voulait... Enfin... C'est inconcevable, il y a personne qui est parfait, il peut pas être parfait, mais il veut être parfait. Et pour elle, il se dit que la seule solution pour pouvoir être avec elle, c'est d'être parfait. Donc, bon, après, il a pas forcément raison, mais...
Vous savez si ça a payé à la fin ou pas?
Pardon?
Est-ce qu'il a été avec la fille?
Ah non, ça j'ai pas.
Parce que c'est quand même.
En gros, il s'est pris la tête pour rien. Genre, le mec, il s'est démonté lui-même, puis ensuite, non, mais je te veux pas. Ça valait pas le coup, quoi.
Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait une phrase, je sais pas si je l'ai trouvée sur internet ou dans un livre, mais bref. C'était une phrase, c'est genre la perfection est inatteignable, c'est pour ça que la vie est merveilleuse, parce que comme ça, tu essayes de l'atteindre.
J'avais lu un truc aussi, comme c'est un peu subtil là. C'est en arrêtant d'essayer de gommer les imperfections qu'on peut ensuite arriver à une perfection. Mais en y réfléchissant, c'était vachement...
Moi, j'ai un vendeur sur un marché en Argentine, même à Buenos Aires, qui m'a dit « Imperfecto es perfecto ». Et je trouve que c'est extrêmement profond. Avec le petit accent en plus. Non, je pense pas que j'ai vraiment fait l'accent argentin, là. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est l'imperfection qui est la perfection. Ça veut dire qu'on trouve la perfection dans les aspérités.
Un gars du marché ?
Ouais.
Genre, il devait pas vendre des bons trucs, lui.
Il vendait que des trucs déglingués, donc forcément, il fallait qu'il vende sa camelote. Mais il devait
Non, mais devise d'Ikea.
Mais non, pour le coup, je trouvais que c'était assez juste parce que c'est un peu ça l'idée. C'est que dans... personne n'est parfait, mais on trouve une perfection dans plein d'imperfections, justement. D'aspérités, j'allais dire, enfin de défauts. De... Bon, mais ceci dit, on pourrait poursuivre cette conversation, mais on va continuer déjà avec la musique. Ed Sheeran, photographe Pierre. On a déjà passé du Ed Sheeran ici, je crois.
Hein. En fait, c'est vraiment mon chanteur préféré. Donc, il y en aura sûrement encore.
Cool. Non, mais c'est toi qui me l'as fait découvrir. Ouais. Mais franchement, j'avais adoré le premier.
Là, ça change complètement de style. Ah. C'est pas du tout pareil.
Je vais détester alors.
Ah non, c'est...
Je plaisante. Et c'est quoi, photographe?
En fait, c'est la première de l'album que j'ai écouté.
D'accord.
C'est aussi grâce à elle que j'ai découvert Ed Sheeran. Donc, c'est vrai que...
Ah, ça, c'est une belle histoire pour nous. D'accord.
C'est vrai que je l'ai adoré dès que je l'ai entendu, quoi.
Ok.
Sinon, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire.
C'est déjà énorme, je trouve. On va écouter ça. Photograph par Ed Sheeran. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. Mm-hmm. And it's the only us when we die. Mm-hmm. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped. Within your soul, and if you have.
Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Waouh, c'est hyper romantique.
Waouh.
Ed Sheeran, Photograph. Trop beau.
Kawaii.
Ouais. Bon, je voudrais revenir à cette idée de perfection, en tout cas, quand même, parce que ça m'intéresse aussi votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous êtes un peu obsédé par la perfection ou pas?
Bonne question.
Non.
Toi, oui.
Ouais.
C'est-à-dire, Yelena?
Bah, je sais pas, je veux toujours, enfin, surtout avant, je voulais toujours faire tout parfait. Et du coup, enfin, après, c'est fatigant, enfin, de vouloir toujours faire tout parfait.
Mm-hmm.
Parce que de toute façon, enfin, c'est un but qu'on peut pas atteindre. Du coup, on a l'impression de tout faire pour y arriver, alors que ça sert à rien.
Mm-hmm. Donc, un peu comme un hamster qui tourne dans le vide.
Ouais.
Un hamster, c'est pas mal l'image. Le hamster dans sa roue.
Mais du coup, c'était épuisant parce que tu voulais quoi, que quoi soit parfait?
Bah, enfin, je sais pas, je voulais tout le temps. Enfin, ça paraît prétentieux comme ça, mais c'était pas. Enfin, je voulais pas. C'était pas prétentieux, mais je voulais tout le temps être la meilleure. Enfin, sans vouloir
non,
ouais, c'est moi la meilleure, juste pour moi, parce que. Enfin, juste pour moi.
Mmh.
Et dans tout ce que je faisais, du coup, à la fin.
T'avais une pression à côté?
Bah, enfin, j'en avais une, mais comme tout le monde. Mais enfin, celle que je me mettais moi, c'était la plus grosse. Enfin, j'ai tout le temps, je me mets tout le temps la pression.
C'est pas tes parents qui t'obligent?
Non, enfin, non.
Moi aussi, je me mets toujours un peu pas mal la pression, mais en fait, c'est un peu bizarre parce que je suis pas mal perfectionniste, mais j'ai tellement peur de rater mon truc que je le fais pas.
Je
m'arrête de le faire en me disant ça va pas être à la hauteur de mes attentes, donc je m'arrête. Et
c'est
je
notre
le fais
attitude,
pas.
Effectivement.
Donc, ben, au final, je fais pas grand-chose, quoi.
Et est-ce que ça te déçoit? Est-ce que tu te déçois?
Oui, je me déçois quand je fais des trucs et je me dis putain, ça aurait pu être 100 fois mieux.
Non, d'arrêter, de pas les faire.
Ah non, ça me déçoit pas parce qu'entre guillemets, je me dis bon, ben, au moins, j'aurais pas raté.
D'accord.
Donc, ouais. Enfin, c'est pas la même attitude, mais c'est... Voilà, enfin, moi, je réagis comme ça, donc...
Mais d'un côté, je me dis que, au moins, j'ai pas raté, c'est au moins se mettre à 100% la chance de pas réussir.
Oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr que
de pas le faire.
J'ai déjà eu un peu ce raisonnement, mais en réfléchissant un peu, je me suis dit que c'est surtout la meilleure chance pour pas réussir.
C'est
et
vrai.
De ce côté-là, on perd dans tous les cas, quoi.
Ouais.
Donc, bon...
Et toi, est-ce que tu vises parfois la perfection, justement?
Non. Enfin, des fois, je me mets un peu sur certains domaines, je me mets un peu la barre haute.
Ouais.
Après, j'essaie de me mettre, de faire les efforts nécessaires pour arriver plus ou moins à ce que je veux.
Est-ce que tu relativises?
Pas trop, non.
Non.
Moi, oui, beaucoup.
Ah oui?
Pourtant, ouais, je relativise beaucoup.
Ah ouais.
Genre, tu vois, je suis capable de dire, de toute manière, c'est pas si grave que ça, il y a pire, quoi. Donc, mais je dis ça souvent, en plus, hein. Donc, je trouve que je relativise pas mal.
Mmh. Et alors, Yelena, est-ce que tu disais avant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé maintenant par rapport à ton attitude vis-à-vis de la pression et de la perfection?
Bah, déjà, depuis aller en cours, je m'en mets moins, c'est logique, mais... Mais enfin oui, j'en ai toujours 3 tonnes, mais j'en ai quand même un tout petit peu moins. Enfin, j'en ai moins. Je sens que j'en ai moins.
Donc là, ça va être scolairement, quoi.
Oui, voilà, mais enfin, c'est vraiment pas que scolairement. Ça peut être sur des trucs totalement débiles. Enfin, pour quelqu'un, c'est rien, mais pour moi, c'est... Si je le fais pas parfaitement, mais je suis nulle.
Genre quoi, par exemple? Enfin, je sais pas si tu penses à un truc...
Je sais pas, mais genre, pour moi, toute la journée, il y a des... Comme des challenges, enfin, je sais pas. Je suis tout le temps en compétition avec moi-même, avec les autres, tout le temps. Enfin, c'est un défaut, enfin. Je suis contente que c'est un défaut.
Je sais pas si on appelle ça un défaut, mais en tout cas.
C'est une pensée peut-être un peu. Pas vraiment un défaut, quoi. C'est un truc qu'on a dans la tête qui est pas trop cool, quoi.
Mais comme tu disais, c'est épuisant.
Ah, c'est sûr.
Parce que t'as jamais fini, quoi.
Ouais, on veut tout contrôler. même ce qui n'est pas contrôlable.
Mmh. Mmh. Et toi, Aurore? Fais pas cette tête.
Aurore?
Non, mais est-ce que ça te parle, le coup de la pression, ou en tout cas la perfection, ou atteindre la perfection?
Alors moi, en fait, plutôt coup. En fait, au niveau de l'école, quand j'ai réalisé que ça m'intéressait pas, que de toute manière, j'arriverais pas... Alors moi, j'ai laissé tomber franchement, la perfection, je l'ai pas. Moi, c'est un peu Alphonse Allais. Je poursuis mes études sans... Alphonse Allais, il a dit quelque chose. J'ai poursuivi mes études sans jamais les rattraper. J'ai arrêté de courir au bout d'un moment, en fait. Et donc, du coup, non. Moi, je suis au niveau de... Je suis perfectionniste, par contre, au niveau de ce que j'aime faire, au niveau de mon art. Quand je fais quelque chose, voilà, je me dis toujours, je peux faire mieux. Je suis obligée... Je me mets vraiment des barrières au niveau de ce que j'aime faire. Après, sinon, non. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué, quand même. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Je pense qu'il y a une barrière. Faire du mieux qu'on peut, c'est ça qu'on peut atteindre, qui me paraît logique. La perfection, c'est un niveau au-dessus. C'est que malheureusement, il y en a beaucoup. Moi, je voyais beaucoup ça à l'école, quand j'étais dans mon lycée élitiste. Ils avaient 15, ils pleuraient parce que les parents les frappaient en rentrant, quoi. C'est un truc de malade.
Waouh, ok.
Et ouais, ça m'a beaucoup choqué, moi, donc du coup.
Ouais, après, en même temps, il y a l'impression que tu te mets toi, l'impression que te mettent tes parents. Ouais, c'est pas totalement pareil.
Mais même, il y en a qui pleuraient, même s'ils vont pas se faire.
Oui, bien sûr, mais.
Frappé par les parents, heureusement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les deux, quoi. Les deux, ça joue, parce que bon, tu peux avoir la pression, tu te mets toi, qui est déjà assez importante, parce que tu te dis, putain, je vais pas réussir, faut que je réussisse pour que. Voilà. Et après, t'as tes parents derrière toi qui sont, faut que tu réussisses pour nous, parce que voilà, pour nous rendre fiers, pour tout ça. Et ça aussi,
ça, c'est horrible,
ça. Ça aussi, c'est pas génial, quoi. Ça aussi, ça rajoute des tonnes de pression, quoi. Après, voilà. Au début, le pire, c'est que, genre, au début, tu. Enfin, moi, ça s'est passé comme ça au début. Jusqu'à la cinquième, mes parents, implicitement, ils me disaient faut que tu sois bon. Ils me disaient pas. Ils me disaient, enfin, des fois, explicitement aussi, mais la plupart du temps, c'était implicite. Ils me disaient faut que tu sois bon, faut que tu aies des bonnes notes.
C'est normal, c'est un peu le job des parents aussi, quand même, de vouloir que leurs enfants soient les bons élèves.
Enfin, genre, j'avais 14, ils étaient pas contents.
D'accord. Il y a des limites. Hein.
Voilà, je veux dire, j'aurais eu 7 sur 20. Là, j'aurais dit oui, vous avez le droit de pas être content, mais j'avais 14.
Et c'était pas assez bien.
C'est pas assez bien. Donc, bon, jusqu'à ce que j'aille en 5e, ça allait, parce que j'avais 17 de moyenne, donc ça allait. Puis en 5e, mes moyennes, elles sont passées de 17 à 5. Donc là, ils n'ont pas été très très contents, tu vois. Là, ils m'ont fait un peu « Oui, Arthur, là, il faut que tu te ressaisisses. » Et ben oui, ben non, j'ai pas réussi, voilà. C'est comme ça.
Et toi, Léo, est-ce que ça te parle, l'idée d'atteindre la perfection?
Bah ouais, surtout mes parents, en fait.
Ah, c'est-à-dire?
Bah, ils voulaient toujours, si t'as pas 14, t'es puni à la maison et tout. Donc.
Ah ouais. Ah, tu vois, eux, ils se contentent de 14.
Ouais, voilà.
Non, mais et du coup, ça te mettait dans quel état, toi?
Bah moi, ça me donnait pas envie de faire des efforts.
Ah, c'est sûr que c'est vrai.
Intéressant.
Mais si t'avais 13,5, ils t'engueulaient?
Non,
mais sérieux.
Non, pas spécialement, mais ils me disaient mais tu pouvais faire mieux et tout, on va refaire ce que t'as pas compris, et voilà.
Ouais, ils demandaient d'avoir 14, et si t'avais 14, c'était pas assez.
Ouais, voilà.
Ils te poussaient, quoi, pour aller toujours, toujours mieux, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et toi, du coup, ça te faisait réagir en voulant justement pas faire les efforts. C'est intéressant.
Exactement.
Ça. Est-ce que du coup, Léo, il y a cette pression scolaire que tes parents te mettaient, mais est-ce que toi, du coup, dans ta vie à toi, t'avais un peu d'autres challenges que tu te mettais?
Avant, ouais.
Comme quoi, par exemple?
En sport. Surtout en sport.
Ah, genre quoi?
Bah, je faisais beaucoup de sport et voilà, pendant les compétitions, je voulais être premier et tout. C'était...
Ah, d'accord. Tu faisais quoi comme sport?
Athlétisme.
D'accord. Avec une spécialisation en particulier?
Non, en tout.
D'accord. Et comment ça se passait? Alors, tu te mettais genre grave la pression, t'y arrivais, t'es-tu...
Ouais, je me mettais grave la pression jusqu'à faire un malaise, quoi.
Non.
Si, là, quand j'ai repris le sport à l'école, ouais, j'ai fait un malaise.
Waouh. Et ça t'a fait...
Ça fait beaucoup de pression.
Réfléchir ou pas? Ça t'a fait un peu réaliser des choses ou prendre une nouvelle attitude?
Non, pas trop.
Donc, ça veut dire que tu continues à te mettre la pression comme ça?
Oui, mais comme je fais plus rien, donc non.
Oui, c'est sûr. D'accord. Mais est-ce que l'idée que en fait ce soit du sport, ça joue pour toi?
Ouais.
Parce que?
Bah, en fait, j'ai toujours aimé ça et tout. J'étais pas mauvais, donc voilà.
D'accord. Et juste pour finir, ça marchait le fait que tu te mettes la pression comme ça, t'arrivais effectivement dans les premières places?
Ouais.
Et là, tu ressentais quoi?
Bah, j'étais content.
Ouais. Non, parce que du coup, dans ces cas-là, ça vaut entre guillemets le coup de se mettre la pression, tu vois ce que je veux dire? Si effectivement t'as du résultat derrière.
Ouais, mais jusqu'à faire un malaise, quand même pas.
Exactement, c'est ça, à quel prix? Après, il y a un moment, il y a une limite. Bon, eh ben, non, c'est très intéressant tout ça. On va écouter maintenant The Living Tombstone.
Ah, elle est bien cette chanson. c'est un truc entre Pierre et moi maintenant, désormais.
désormais. C'est-à-dire ?
En fait, c'est une chanson tirée d'un jeu.
Oui.
Qui s'appelle vidéo. Five Nights at Freddy's. Un jeu vidéo, bien sûr.
Qui s'appelle The Five Nights at Freddy's.
Et c'est un jeu d'horreur. Mais la musique ne fait pas peur. Mais vraiment pas peur du tout. Les paroles sont flippantes, mais la musique pas du tout.
Guillaume a un peu expliqué le principe du jeu. Il faut fermer des portes.
C'est ça. Oui, mais c'est vraiment un jeu d'horreur. Hein. En gros,
c'est un peu oppressant comme système.
Non, mais en fait, je t'explique. Tu es dans une salle de caméra où tu surveilles une
salle
pizzeria.
De surveillance.
Une salle de surveillance où tu surveilles une pizzeria. C'est une pizzeria où il y a des automates, mais nounours, tu vois, genre nounours, lapin, poulet et renard. Oui, c'est débile, mais c'est des automates genre de taille humaine.
Essaye de le faire résumer là.
Voilà, et la nuit, ils deviennent fous, ils viennent te buter.
Eh ben écoute.
Voilà, c'est pour ça que ça, c'est un jeu d'horreur. En gros, faut fermer les portes avant qu'ils arrivent te buter. Sauf que tu as un nombre d'énergie électrique limité. C'est pour ça que ça devient galère, parce qu'il faut surveiller les caméras, fermer au bon moment, parce que si tu laisses tout le temps fermé, eh ben la batterie elle s'arrête et les portes elles se réouvrent et ils viennent te buter.
Quelle horreur. Voilà, mais c'est... ça c'est oppressant.
Ça c'est oppressant, tu vois.
Alors on va écouter ça, The Living Tombstone de Five Nights at Freddy's, les 5 nuits chez Freddy. Ok, Five Nights at Freddy's, effectivement, The Living Tombstone. En fait, c'est archi oppressant comme situation.
Le truc est vraiment oppressant.
Non, mais parce qu'en fait, ces automates-là, ils veulent rentrer
dans ta pièce.
Dans ta pièce.
Oui, t'es dans une
pièce. Donc toi, tu fermes la porte pour pas qu'ils viennent te choper, toi. C'est horrible, quoi. Non, tu vois.
Et le pire, c'est que, genre, tu vois, quand ils arrivent, ils te sautent à la gueule. Mais littéralement, ils te sautent à la gueule. Sur ton écran, t'as un, genre un renard, un putain de renard avec des énormes dents, qui arrive comme ça. Ah, salut!
Un truc horrible.
C'est vraiment ultra oppressant.
Mais là, Guillaume, il m'a raconté justement qu'il y a un youtubeur qui se filmait justement pour le 2. Oui. Et en fait, il a failli même avoir une crise cardiaque parce qu'il voit le. En fait, il joue sur une subtilité, c'est qu'ils mettent le son très très bas. Mm-hmm. Donc toi, tu montes le son parce que tu dis il y a pas de son, qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Et en fait, au moment où le truc se jette sur toi,
il y a un énorme cri.
Il y a un cri énorme. Genre, donc toi, tu es genre ah.
C'est ça. Enfin, bon,
voilà. Mais tu dois bien fermer ta porte avant d'aller dormir.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et le pire, c'est que cette histoire.
C'est surprenant quand même.
Non mais.
Tu surveilles ta porte, elle était là dans ton lit.
Non mais cette histoire, par contre, c'est pas dit officiellement, mais c'est inspiré d'un fait réel.
Oui.
C'est-à-dire non mais c'est vrai. En fait, je t'explique. En 1993.
Non, en 1932,
les nounours sont privés. Non, c'est pas ça. En 1993, aux États-Unis, il y a une chaîne de pizzeria qui faisait à peu près la même chose, c'est-à-dire que sauf que c'était pas des automates, c'était des gens dans des mascottes, tu vois, dans des costumes de mascottes.
Ouais, ouais.
C'était la même chose, sauf qu'un jour, il y a un mec qui s'est fait virer de la pizzeria parce que voilà, enfin, il était pas content, il est revenu dans la pizzeria, il a tué les 5 employés et il les a mis dans les mascottes. Et on a jamais retrouvé les corps.
Je mangerai plus jamais de pizza.
Ou alors non, commander une pizza.
Non, c'est vraiment arrivé et donc en fait, il y a pas mal de liens qui sont faits avec ce jeu et il y a pas mal de coïncidences qui font penser que en fait, il y a un lien. Mais c'est pas grave.
D'accord, ok, bah merci pour ces précisions en tout cas, mais c'est vrai que c'est bien oppressant cette affaire.
C'est très très oppressant.
Mais... Allez, si on écoutait la suite, c'est-à-dire Nathalie Cardone, Comandante Che Guevara. Alexis, tu l'écoutais quand cette chanson?
Il y a une semaine, même pas.
Ouais, c'est ça, c'est un truc assez récent.
Ouais, j'aime bien. Ouais.
Alors, c'est une chanson qui a un grand standard sud-américain. Et du coup, plein de gens l'ont repris. Et là, c'est Nathalie Cardone qui nous chante Comandante Che Guevara.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda.
Nathalie Cardone, Comandante Che Guevara, on se la garde un petit peu en fond sonore, quoi. Un clip assez intéressant, un mélange de virilité.
Qu'est-ce qui se passe genre, sur le clip? Genre on le voit lui, non? Sur plusieurs photos, non?
Lui, je crois que c'est quelqu'un qui le représente, en tout cas c'est un acteur, quoi. Mais effectivement, ouais. On le voit lui, et on la voit beaucoup, elle, dans plein de situations. Elle tire avec un fusil sur des cibles, ensuite elle s'en va avec un bébé et son fusil, ouais. Ensuite elle danse en se mettant plein de l'eau partout. Ah. Tu comprends, et elle tape dans la vase pour montrer qu'en fait elle est forte. et qu'elle sait faire des combats, des positions de combat.
Ouais.
Et ensuite, elle entraîne avec elle une foule immense de tout un peuple, en fait, dans la lutte. Ah, un petit discours de
parle,
Che Guevara.
Ah, mais...
Et c'est la fin de la chanson.
J'ai regardé un peu les discours de ce gars-là, mais sur YouTube. Après, je connaissais pas trop ses valeurs ou ce qu'il pensait tout, mais... Il a trop la classe, le gars. Vraiment, il m'a
dit
trop
puissant.
On en reparlera si tu veux la semaine prochaine, effectivement. Ouais. Vous connaissez un peu ou pas?
C'est un révolutionnaire cubain.
Oui.
C'est ça, c'est tout ce que je sais.
C'est tout ce que tu sais, d'accord. Eh bien, on en reparlera la semaine prochaine. Merci pour tout et pour cette discussion. Et vraiment, encore une fois, j'adore tout ce qu'on partage ici. Donc, ça me fait très plaisir. Vous retrouverez tout ça dans l'émission, dans le site de la radio, et puis aussi la playlist aussi avec tous les clips, comme ça vous pourrez voir Nathalie Cardone en train de danser dans la vase. Et non, mais ceci dit, c'est une émission, c'est une chanson, pardon, qui est devenue celle-là, Comandante Che Guevara, un vrai hymne révolutionnaire en quelque sorte, quoi. C'est une chanson qu'on chante beaucoup, beaucoup, et pas qu'en Amérique du Sud. À bientôt, à la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao.